Vous écoutez, on lit pour vous.
Sous les parcs, l'histoire des carrières de Montréal. Un texte de Caroline Montpetit paru le 7 janvier 2026 dans Le Devoir. L'été, le long de l'avenue Christophe-Colomb, entre Villeray et Jarry, des tomates, des carottes ou des framboises s'épanouissent dans une rangée de jardins communautaires. Mais peu de gens savent que ces jardins sont en fait installés sur 28 mètres de profondeur remplis d'ordures qui ont jadis comblé les trous laissés par la carrière Villeray, devenue depuis 1960 un parc. C'est le destin qu'ont suivi nombre de parcs de Montréal, du parc Marquette au parc Laurier, du parc Maisonneuve au parc Rosemont et, plus récemment, au parc Frédéric Bach, qui se déploie sur l'ancien site de la carrière Miron. Guy Gaudreau, professeur d'histoire retraité et guide touristique à 16 heures, s'est longuement penché sur l'histoire des carrières de Montréal et vient d'en tirer un livre, « Une histoire des carrières de Montréal », paru aux éditions du Septentrion. Devant l'aréna du parc Villeray, il brandit la photo d'un concasseur trônant au-dessus d'un trou de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. C'est là qu'Aristide Dulon, un tailleur de pierre, perd la vie, écrasé par une grue. On peut encore voir la maison qu'il habitait, dont la façade de pierre a été montée à même les pierres de la carrière. C'était de la pierre de taille, une pierre de qualité, coupée à même la couche de calcaire de surface, plus rare qu'on le pense en territoire montréalais. On sait que la pierre de calcaire de Montréal a été utilisée en Nouvelle-France pour fabriquer de la chaux dans des fours. Mais les maisons ont pour leur part longtemps été construites en simple pierre des champs, puis en pierre de maçonnerie et, dans certains cas, en pierre de taille. Le calcaire a aussi été broyé pour produire du mortier, du béton, du ciment et de l'asphalte. Guy Gaudreau estime qu'on a tellement mis l'accent sur la pierre de taille qu'on a oublié tous les autres métiers qui gravitent autour de l'extraction du calcaire. Celui des carriers, par exemple, qui enfoncent des aiguilles dans la pierre pour l'extraire, ou celui des charretiers, qui dégagent les productions des sites d'extraction. Dans le plateau Mont-Royal, il n'y a pas de pierre de taille, la couche de calcaire n'étant pas d'aussi bonne qualité. Ceux qui travaillaient dans les carrières, on les appelait les pieds noirs, peut-être, dit-on, parce que leurs pieds se salissaient de la poussière de calcaire. Des explosions dangereuses. Dans les années 1890, des explosions ont fait trembler le sol plusieurs fois par jour, aux grandes dames des résidents qui vivent aux abords des carrières. Le 20 juin 1929, une couventine de 8 ans, Anita Landry, est atteinte par un caillou lancé par la dynamite. Dans l'année qui a suivi, la crise économique a eu raison de plusieurs carrières de Montréal. Laissés à l'abandon, ces trous dans la terre forment des lacs, où les citoyens se baignent et se noient, relève Guy Gaudreau. C'est alors que la ville de Montréal, qui a exproprié plusieurs propriétaires, leur trouve un nouvel usage. À l'époque, quoi de mieux que ces immenses terres éventrées pour déposer des ordures dont on ne sait plus que faire? Sous l'administration municipale, les carrières deviendront des dépotoirs avec les désagréments que l'on soupçonne. Les camions à ordures entrent et sortent jour et nuit. Des développements domiciliaires sont construits aujourd'hui sur ces sites. En 2015, un reportage de l'émission La Facture à Radio-Canada relevait l'incidence de la possible contamination de ces terrains sur la vie de ceux qui y habitent. Après la fermeture des dépotoirs, plusieurs carrières deviendront des dépôts à neige. D'ailleurs, la carrière Francon, située près de l'autoroute métropolitaine, est encore aujourd'hui réservée à cet usage. Environ 40 % de la neige de Montréal y est déversée chaque année au milieu du va-et-vient des camions jour et nuit. Désormais, c'est plus au nord, dans le village qu'on appelle encore Saint-Michel, que l'industrie de la pierre se développe. C'est là que Gérard Miron achètera une ferme pour 90 000 $ en 1948 pour faire une carrière qui en vaudra 50 millions de dollars 12 ans plus tard, après qu'on y aura construit une cimenterie de 30 millions de dollars, rappelle Guy Gaudreau. Comme les carrières situées plus au sud, la carrière Miron deviendra un dépotoir avant d'être transformée récemment en parc. À Saint-Michel, ça ne passe pas inaperçu, poursuit Guy Gaudreau. Les citoyens de Saint-Michel vont se plaindre du dépotoir. Ils demandent que ça cesse. La ville de Montréal rachètera finalement le terrain en 1984. Et l'actuel parc Frédéric Bach, qui recouvre 40 millions de tonnes de déchets, y a officiellement été inauguré lors du 375e anniversaire de Montréal en 2017. Là où il y avait autrefois un trou de plus de 100 mètres, on peut désormais se promener sur un vallon. « Je trouve ça plutôt joli », confie Guy Gaudreau. C'était « Sous les parcs, l'histoire des carrières de Montréal », un texte de Caroline Montpetit paru le 7 janvier 2026 dans Le Devoir.
De Vancouver à Montréal, une même réalité, un texte de Simon Bolduc, journaliste à l'itinéraire, paru le 21 février 2026 dans la presse. Né en Europe, au tournant des années 1990, les journaux de rue ont offert à des milliers de personnes marginalisées et sans emploi une façon de gagner leur vie dignement. Mais si certains géants, comme The Big Issue, fondé en 1991 à Londres, sont aujourd'hui devenus des institutions reconnues populaires, d'autres ont disparu. Entre ces deux réalités subsistent 92 journaux de rue. Parmi eux, Mégaphone de Vancouver et ses 135 Camelots. Lynn Champagne, Camelot de l'itinéraire, s'entretient avec son homologue britanno-colombien David De Oceira, Camelot pour Mégaphone. La discussion s'ouvre sur une image inattendue alors que David brandit un exemplaire de l'itinéraire du 15 septembre 2025 devant la caméra. « Comment tu as mis la main là-dessus ?» lui demande Lynn. « Aucune idée, » répond-il en riant. « Mais depuis que je l'ai, je l'expose sur mon stand. » Les gens de Montréal en visite sont ravis de reconnaître un produit bien de chez eux. Lynn, dis-moi, David, ça fait longtemps que tu vends Mégaphone. Peux-tu me dire ce qui t'a amené à devenir Camelot? David, 8 ans, et j'entame ma 9e année. J'ai quitté les Philippines en 1995 pour le Canada. Je suis heureux et surtout fier d'avoir réussi à m'installer à Vancouver. J'ai commencé ma vie ici en occupant une série d'emplois. Concierge de nuit, dans une station de ski, plongeur, agent de sécurité pendant les Jeux olympiques de 2010. Après les Jeux, l'emploi était plus difficile à trouver. J'ai commencé à distribuer les quotidiens métro et 24 heures, ce qui m'a donné une expérience comme camelot de rue. Mais comme tu sais peut-être, les deux journaux ont fermé. Ma communauté, mon appartenance, ça a toujours été dans le secteur du Downtown East Side. Et je voyais régulièrement des gens vendre Mégaphone dans la rue. J'étais curieux. Je l'ai lu et je suis tombé amoureux du contenu. J'ai à cœur la justice sociale et j'aime le fait qu'un journal de rue soit comme un porte-parole des personnes marginalisées. Lynn, est-ce que ça te permet d'avoir une meilleure qualité de vie? David, Mégaphone m'a sauvé la vie. En séjournant dans des refuges du quartier, j'ai rencontré toutes sortes de personnes, J'ai fini par boire et faire la fête dans des bars obscurs. Ce n'est pas mal en soi, mais j'ai fréquenté ces endroits accompagné d'un peu de narcotiques à cause de la pression de mon cercle d'amis. Mégaphone m'a donné plusieurs compétences. Je gère mon travail de camelot comme ma petite entreprise. Je fais l'inventaire, la planification, les stratégies marketing, le service à la clientèle, la gestion du temps. C'est ma petite boutique. Lynn, as-tu l'occasion d'écrire ou de t'impliquer dans la conception du magazine? David, je fais partie du programme The Shift Peer Newsroom. C'est un comité de rédaction dirigé par un groupe de camelots. Aussi, je suis artiste visuel et Mégaphone publie mes œuvres à l'occasion. Lynn, je voulais te demander si tu as des problèmes avec les personnes qui quêtent à l'endroit où tu vends. David, quand je vois des quêteurs à mon coin de rue, j'essaie d'être respectueux et de me mettre plus loin. Parfois, je leur achète du café ou des bonbons. J'essaie de maintenir de bonnes relations avec eux, surtout avec les plus familiers, comme moi. Il y a une personne à mon point de vente et j'ai tendance à lui apporter des cigarettes ou à lui glisser un dollar ou deux. Nous essayons de trouver des arrangements et je leur parle un peu de Mégaphone. Je leur dis qu'ils peuvent devenir camelots s'ils le souhaitent et je les invite à venir raconter leur histoire. Lynn, est-ce que Mégaphone offre des services de soutien pour aider les camelots à se trouver un emploi ou à passer à autre chose? David, on nous offre continuellement diverses opportunités, formations, expériences, ateliers. Par exemple, j'ai reçu une formation en secourisme et un atelier sur la sécurité alimentaire. Ils fournissent aussi des lettres de recommandation. Je cherche toujours un emploi, et ce, même à 60 ans. Lynn, on n'a pas vraiment le choix à cet âge de continuer à travailler aujourd'hui, hein? David, de temps en temps, je vais dans des centres d'emploi et j'envoie mon CV. Je peux compter sur Mégaphone comme filet de sécurité. Lynn, votre magazine se vend 5 $. Depuis quand est-il à ce prix? David, depuis un an. On est passé de 2 $ à 5 $. Est-ce que des gens ont arrêté de l'acheter parce que l'augmentation a été rapide et importante? Seules quelques personnes ont réagi négativement, mais la majorité était d'accord. Lynn, combien payez-vous l'exemplaire? David, nous l'achetons 1,50 $. Mon objectif maintenant est de rejoindre plus de personnes parce que je remarque qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas le magazine. Lynn, merci beaucoup, David. C'était un plaisir de te rencontrer. Tu devrais te mettre au crochet. C'est un bon créneau, je te le promets. Ça va se vendre. C'était, de Vancouver à Montréal, une même réalité, un texte de Simon Bolduc, journaliste à l'itinéraire, paru le 21 février 2026 dans la presse.
Un dispositif pour améliorer la démarche des personnes vieillissantes. Un texte de Camille Dauphiné-Pelletier, paru le 26 janvier 2026 dans la presse. Des personnes qui ont réussi à corriger leur démarche remercient fréquemment la professeure Nancy Mayo, puisqu'elles ont ainsi réduit considérablement leur risque de chute et de blessure. Des gens me disent souvent « Vous m'avez donné de l'espoir. Je ne pensais pas que je pourrais m'améliorer », mentionne-t-elle. Nancy Mayo est fondatrice et présidente de l'entreprise physio-biométrique, qui a conçu le dispositif Heel to Toe. Celui-ci consiste en un petit appareil rectangulaire qui se glisse sur le bord d'un soulier et qui indique aux personnes qui le portent si leur démarche est adéquate.
bien marcher n'est pas sorcier, indique Nancy Maillot. Il suffit de déposer son talon au sol en premier. Dans la population générale, c'est ce que la plupart des gens font, mais des personnes qui ont un trouble neurologique ou qui sont vieillissantes peuvent développer une démarche plus dangereuse, parfois même en ayant la perception que celle-ci est plus prudente. Les gens ne le savent pas quand ils ne marchent pas correctement, mais éventuellement, ça les rattrape, dit celle qui enseigne à l'école de physiothérapie et d'ergothérapie de la faculté de médecine de l'Université McGill. La presse a pu tester le dispositif Heel to Toe qui émet un bip lorsque les pas sont bien faits. Il est destiné à être porté 5 ou 6 minutes par jour à l'intérieur de la maison pour exercer sa démarche et ancrer la bonne façon de marcher dans le cerveau. Les résultats sont intéressants. Une étude pilote a notamment démontré que l'utilisation du dispositif permettait d'améliorer la démarche de personnes atteintes de Parkinson. Et les anecdotes positives ne manquent pas. Une femme me racontait récemment qu'elle comptait aller magasiner au centre commercial avec sa mère et qu'elle devrait l'installer dans un fauteuil roulant. Finalement, après avoir utilisé le dispositif, celle-ci a réussi à marcher 3500 pas dans le centre commercial, relate Nancy Maillot. Identifier les bons pas. Pour développer Heel to Toe, Nancy Maillot a contacté un collègue en ingénierie biomédicale à McGill et a monté une petite équipe qui a bâti l'objet et surtout programmé le logiciel d'analyse qui permet d'identifier les bons pas et de récolter plusieurs données sur la démarche des personnes qui le portent. L'entreprise Physiobiometrics compte aujourd'hui 5 copropriétaires qui ont tous aussi un autre emploi. Il s'agit d'un projet mené en parallèle. Celui-ci a été financé à partir de subventions, notamment de l'Université McGill, mais aussi d'organisations comme Parkinson Québec. Nous voulons faire circuler le message que les gens doivent améliorer leur démarche et qu'il est possible de l'améliorer. La démarche des gens se détériore à partir de l'âge d'environ 60 ans. Ça s'installe de façon insidieuse, dit la professeure, qui fait aussi partie de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, CUSUM. Les dispositifs Heel to Toe sont vendus en ligne sur le site de Physiobiometrics pour $150. Le public cible de l'entreprise est notamment les enfants qui ont des parents vieillissants, puisqu'ils remarquent souvent le changement dans la démarche de leurs parents avant ceux-ci. Ceux qui souhaitent aller plus loin dans l'analyse de leur démarche ou qui sont suivis en physiothérapie peuvent brancher le dispositif Heel to Toe à leur ordinateur et avoir accès à plusieurs données, dont le calcul du risque de chute, ainsi que des recommandations d'exercice en fonction des problèmes observés. Pourquoi Physiobiometrics? L'entreprise vante un dispositif abordable qui permet aux gens d'améliorer par eux-mêmes leur démarche et de prévenir des chutes. Cette solution est particulièrement inspirante dans un contexte de vieillissement de la population. C'était un dispositif pour améliorer la démarche des personnes vieillissantes, un texte de Camille Dauphinet-Pelletier, paru le 26 janvier 2026 dans La Presse.
L'hiver en ville, degré ou de force. Un texte de Caroline Monpetit, paru le 16 février 2026 dans Le Devoir. On a beau le fuir dans les méandres de la ville souterraine ou l'ignorer derrière nos rideaux tirés, dehors, l'hiver québécois s'impose, degré ou de force. Au parc Jeanne-Mance, dans la nouvelle lumière de février, il fait moins 10 Celsius au thermomètre. Un groupe de 12 fondeurs débutants a décidé d'affronter la saison. Ils viennent du Burkina Faso, du Mexique, de France, de Toronto ou de Dorval. Mais ils ont choisi Montréal et prennent l'hiver avec. On n'a pas le choix. On ne peut pas rester dans la maison tout le temps. C'est déprimant. Au Burkina Faso, il fait très, très chaud. La chaleur est accablante. Mais ce n'est pas déprimant. Dit Christian Yameogo, un Burkinabé d'origine, qui s'est établi ici avec une Québécoise il y a 6 ans et est depuis devenu père de 2 jeunes enfants. Ici, tout le monde leur a dit que, pour bien vivre l'hiver, il faut aller dehors. C'est donc ce qu'Adrienne Blattel leur propose par le biais de cours de ski de fond offerts à Montréal par Plein Air Interculturel. Première leçon, apprendre à tomber. Les 12 participants du groupe se retrouvent par terre, chaussés de ski soudainement trop longs, et doivent se relever. D'abord à droite, ensuite à gauche. Quand la chute arrivera de nouveau, pas très longtemps après, elle sera accueillie par un grand éclat de rire. Madame Blattel a fondé Plein Air Interculturel il y a 16 ans. La femme, originaire d'Ottawa, avait 2 missions en tête. Rapprocher les nouveaux arrivants et les Montréalais grâce aux loisirs et rendre les activités de plein air plus accessibles. Depuis, elle a accueilli des participants venant de partout dans le monde. L'hiver, c'est le côté plus difficile pour les nouveaux arrivants parce qu'ils ne savent pas comment faire face à ça. On ne sait pas comment gérer le risque d'engelure ou d'hypothermie. Donc, il y a plein de trucs à comprendre, dit-elle. Au point de rendez-vous du parc Jeanne-Mance, la femme distribue donc de l'équipement de ski de fond, mais aussi des pantalons isolants et des mitaines. Naomi Foucheran est au Québec depuis 5 jours et prévoit rester 2 ans. Elle est venue rejoindre sa sœur Rachel, arrivée ici il y a 2 ans et demi. Toutes deux sont originaires de la Bourgogne, en France. En Bourgogne, il n'y a pratiquement pas de neige. C'est une région de vignobles, dit Rachel. Son premier hiver, elle dit l'avoir subi plutôt que savouré. Au début, ça m'a beaucoup dépaysé, parce que je n'ai pas fait assez d'activités hivernales. Donc, j'ai juste survécu. Et puis, j'ai vu un peu comment les Québécois vivaient ça. Ils font beaucoup de choses à l'extérieur. Ils vont dehors, voir la lumière. Alors, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'essaie. Mexicain d'origine, Raoul Miranda est au Québec depuis 8 ans. Mais il cherche encore le sport idéal pour apprivoiser l'hiver. Le ski de fond, on peut le faire peu importe l'âge. C'est plus facile que le patinage, croit-il. L'exception montréalaise. Même Julie Hansen, qui vient de Toronto, a remarqué la relation particulière que les Montréalais entretiennent avec l'hiver depuis qu'elle vit ici. À Toronto, il fait froid, mais pas autant qu'ici. Il n'y a pas autant de neige. Et puis, les pistes sont éloignées de la ville. Il faut aller loin pour faire du ski de fond. La relation des Montréalais avec l'hiver est différente. Ils embrassent l'hiver de plein fouet. J'adore voir les enfants aller à l'école avec des luges. La travailleuse sociale, Mireille Malaquet, œuvre avec l'espace Le Havre, un organisme qui travaille à l'accueil des demandeurs d'asile. Elle a régulièrement accompagné aux activités de plein air interculturel des demandeurs d'asile qui étaient accueillis dans des centres d'hébergement du programme régional d'accueil et d'intégration des personnes demandeuses d'asile. Ce sont des endroits où on loge pour 45 jours des gens qui ne connaissent personne et qui n'ont aucune autre option de logement, explique-t-elle. Ils sont encore dans l'attente de leur audience, n'ont pas encore obtenu le statut de réfugié et ne savent pas s'ils vont pouvoir l'obtenir et rester finalement ici. Avec l'espace Le Havre, Madame Malaquais accompagne des demandeurs en leur apprenant à naviguer dans le système de transport en commun montréalais, par exemple. Puis, je les ai emmenés dans un parc pour aller rejoindre le groupe d'Adrienne. Là, on découvrait un nouveau quartier, un nouveau parc. Pour eux, pour elles, ce sont des expériences transformatives. Comme Adrienne Blattel, Sandy Wolowski est une grande amoureuse du ski. Et pour le faire découvrir à d'autres, elle a fondé l'organisme We Can Ski, qui fait découvrir le ski de fond et le ski alpin aux nouveaux arrivants. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais quitté Montréal. Ils sont ici depuis 3 mois à 2 ans, raconte-t-elle. Et souvent, ils ont peur du ski, de la neige, constate-t-elle. Madame Blattel elle-même dit avoir profité du plein air au cours de ses voyages pour rencontrer des gens et découvrir les lieux. L'été, elle propose aussi ici des ateliers d'initiation au kayak et au canot camping. Et il n'y a pas que les nouveaux arrivants qui ont encore des choses à apprendre à propos de l'hiver. Nedji Augustin est née à Dorval. Et cette année, elle a choisi de passer l'hiver au Québec plutôt qu'en voyage. En ce moment, j'apprivoise l'hiver, dit la mère de 41 ans, en chaussant des skis pour la première fois. Lorsqu'on était enfant, on sortait beaucoup, on jouait beaucoup dans la neige. Mais après, plus rien. C'était « L'hiver en ville » de Gré ou de force. Un texte de Caroline Montpetit, paru le 16 février 2026 dans Le Devoir.